L'encyclopédie, article, alphabet. Alphabet. Par le moyen des organes naturels de la parole, les hommes sont capables de prononcer plusieurs sons très simples, avec lesquels ils forment ensuite d'autres sons composés. On a profité de cet avantage naturel. On a destiné ces sons à être le signe des idées, des pensées et des jugements. Quand la destination de chacun de ces sons particuliers, tant simples que composés, a été fixée par l'usage, et qu'ainsi chacun d'eux a été le signe de quelque idée, on les a appelés mots. Ces mots, considérés relativement à la société où ils sont en usage, et regardés comme formant un ensemble, sont ce qu'on appelle la langue de cette société. C'est le concours d'un grand nombre de circonstances différentes qui a formé ces diverses langues. Le climat, l'air, le sol, les aliments, les voisins, les relations, les arts, le commerce, la constitution politique d'un État, toutes ces circonstances ont eu leur part dans la formation des langues et en ont fait la variété. C'était beaucoup que les hommes eussent trouvé par l'usage naturel des organes de la parole un moyen facile de se communiquer leurs pensées quand ils étaient en présence les uns des autres. Mais ce n'était point encore assez. On chercha et l'on trouva le moyen de parler aux absents et de rappeler à soi-même et aux autres ce qu'on avait pensé, ce qu'on avait dit, ce dont on avait convenu. D'abord, les symboles ou figures hiéroglyphiques se présentèrent à l'esprit. Mais ces signes n'étaient ni assez clairs, ni assez précis, ni assez équivoques pour remplir le but qu'on avait de fixer la parole et d'en faire un monument plus expressif que l'airain et que le marbre. Le désir et le besoin d'accomplir ce dessein firent enfin imaginer ces signes particuliers qu'on appelle lettres, dont chacune fut destinée à marquer chacun des sons simples qui forment les mots. Dès que l'art d'écrire fut porté à un certain point, on représenta en chaque langue, dans une table séparée, les sons particuliers qui entraient dans la formation des mots de cette langue. Et cette table, ou liste, est ce qu'on appelle l'alphabet d'une langue. Ce nom est formé des deux premières lettres grecques, alpha et bêta, tirées des deux premières lettres de l'alphabet hébreu ou phénicien, aleph, beth. « Oui, déni l'aleph alpha magnopere differt » dit Euserbe. Ce qui fait voir en passant que les anciens ne donnaient pas au bêta des Grecs le son de V consonne, car le bêta des Hébreux n'a jamais eu ce son-là. Ainsi, par alphabet d'une langue, on entend la table ou liste des caractères qui sont les signes des sons particuliers qui entrent dans la composition des mots de cette langue. Toutes les nations qui écrivent leur langue ont un alphabet qui leur est propre ou qu'elles ont adopté de quelque autre langue plus ancienne. Il serait à souhaiter que chacun de ces alphabets eût été dressé par des personnes habiles après un examen raisonnable. Il y aurait alors moins de contradictions choquantes entre la manière d'écrire et la manière de prononcer, et l'on apprendrait plus facilement à dire des langues étrangères. Mais dans le temps de la naissance des alphabets, après je ne sais quelle révolution, et même avant l'invention de l'imprimerie, les copistes et les lecteurs étaient bien moins connus qu'ils ne le sont devenus depuis. Les hommes étaient occupés de leurs besoins, de leur santé et de leur bien-être, et ne savaient guère de songer à la perfection, à la justesse de l'art d'écrire. Et l'on peut dire que cet art ne doit sa naissance et ses progrès qu'à cette sorte de génie ou de goût épidémique qui produit quelquefois tant d'effets surprenants parmi les hommes. Je ne m'arrêterai point à faire l'examen des alphabets des principales langues. J'observerai seulement, premièrement, que l'alphabet grec me paraît le moins défectueux. Il est composé de 24 caractères qui conservent toujours leur valeur, excepté peut-être le gamma, qui se prononce en V devant certaines lettres, en nu devant certaines lettres. Par exemple, devant un autre angelos, qu'on prononce Angelos. Et c'est de là qu'est venu Angelus, ange. Le kappa, qui correspond à notre C, a toujours la prononciation dure de K. Il n'emprunte point celle du S ou du Zesta et ainsi des autres. Il y a plus. Les Grecs, s'étant aperçus qu'ils avaient un nez bref et un nez long, les distinguèrent dans l'écriture par la raison que ces lettres étaient distinguées dans la prononciation. Ils observèrent une pareille différence pour l'O bref ou pour l'O long. L'un est appelé O micron, c'est-à-dire petit O ou O bref, et l'autre, qu'on écrit aussi oméga, est appelé oméga, c'est-à-dire O grand, O long. Il y a la forme et la valeur d'un double O. Ils inventèrent aussi des caractères particuliers pour distinguer le C, le P et le T communs du C, du P et du T qui ont une inspiration. Ces trois lettres, qui, phi, theta, sont les trois inspirées qui ne sont que le que, le peu et le l, accompagnés d'une aspiration. Elles n'en ont pas moins leur place dans l'alphabet grec. On peut blâmer dans cet alphabet le défaut d'ordre. Les Grecs auraient dû séparer les consonnes des voyelles. Après les voyelles, ils devaient placer les diphtongues, puis les consonnes, faisant suivre la consonne faible de sa forte. Be, pe, je, se, etc. Ce défaut d'ordre est si considérable que l'O bref est la 15e lettre de l'alphabet et le grand O ou long long est la 24e et dernière. La bref est la 5e et le long la 7e, etc. Pour nous n'avons pas d'alphabet qui nous soit propre. Il en est de même des Italiens, des Espagnols et de quelques autres de nos voisins. Nous avons tous adopté l'alphabet des Romains. Or, cet alphabet n'a proprement que 19 lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, O, P, R, S, T, U, Z. Car l'X et le R ne sont que des abréviations. X est pour GZ, exemple exil, exhorter, examen. Et on prononce exemple, exil, exhorté, examen. X est aussi pour XS, axiom, sexe. On prononce axiom, sexe. On fait encore servir l'X pour deux S dans Auxerre, Flessel, Ussel, et pour un simple S dans Saintonge, etc. Le K est une lettre grecque qui ne se trouve en latin qu'en certains mots dérivés du grec. C'est notre C dur, K, Ko, Q. Le Q n'est aussi que le C dur. Ainsi, ces trois lettres, C, K, Q, ne doivent être comptées que pour une même lettre. C'est le même son représenté par trois caractères différents. C'est ainsi que CI font si, SI encore si, et TI font aussi quelquefois si. C'est un défaut qu'un même son soit représenté par plusieurs caractères différents. Mais ce n'est pas le seul qui se trouve dans notre alphabet. Souvent, une même lettre a plusieurs sons différents. L'S entre deux voyelles se prend pour le Z. Au lieu qu'en grec, le Z est toujours Z et sigma toujours sigma. Notre E a pour le moins quatre sons différents. Le son de le commun, comme en père, mère, frère. Deuxièmement, le son de le fermé, comme en bonté, vérité, aimé. Troisièmement, le son de le ouvert, comme dans bête, tempête, fête. Quatrièmement, le son de le muet, comme j'aime. Cinquièmement, enfin souvent, on écrit E et on prononce A, comme dans empereur, enfant, femme. En quoi on fait une double faute, disait autrefois un ancien. Premièrement, en ce qu'on écrit autrement qu'on ne prononce, et en second lieu, en ce qu'en lisant, on prononce autrement que le mot n'est écrit. Bis peccatis quod aliud sen scribis, et aliud legitis quam scriptum est, en scribenda sunt ut legenda, et legenda ut scripta sunt. Nous faisons des erreurs deux fois, que nous écrivions une chose et que nous lisions une autre, que ce qui est écrit. Et il faut écrire et lire et écrire comme c'est écrit. Marius Victorinus. Pour moi, dit aussi Quintilien, à moins qu'un usage bien constant m'ordonne le contraire, je crois que chaque mot doit être écrit comme il est prononcé, car telle est la destination des lettres, poursuit-il, qu'elles doivent conserver la prononciation des mots. C'est un dépôt qu'il faut qu'elles rendent à ceux qui lisent, de sorte qu'elles doivent être le signe de ce qu'on doit prononcer quand on lit. Tel est le sentiment général des anciens. Et l'on peut prouver, premièrement, que d'abord nos pères ont écrit conformément à leur prononciation, selon la première destination des lettres. Enfin, je veux dire qu'ils n'ont pas donné à une lettre le son qu'ils avaient déjà donné à une autre lettre, et que s'ils écrivaient « empereur », c'est qu'ils prononçaient « empereur » par un « et comme on le prononce encore aujourd'hui en plusieurs provinces. Toute la faute qu'ils ont faite, c'est de n'avoir pas inventé un alphabet français composé d'autant de caractères particuliers qu'il y a de sons différents dans notre langue. Par exemple, les trois « e » devraient avoir chacun un caractère propre, comme l'epsilon et l'eta des Grecs. Deuxièmement, que l'ancienne prononciation ayant été fixée dans les livres où les enfants apprenaient à lire, après même que la prononciation avait changé, les yeux s'étaient accoutumés à une manière d'écrire différente de la manière de prononcer. Et c'est de là que la manière d'écrire n'a jamais suivi que de loin, en loin, la manière de prononcer. Et l'on peut assurer que l'usage qui est aujourd'hui conforme à l'ancienne orthographe est fort différent de celui qui doit être autrefois le plus suivi. Il n'y a pas 100 ans qu'on écrivait « ila » « h-a ». Nous écrivons « ila » « a ». On écrivait « il est né » « n-a-i ». « Ils sont nés » « n-a-i-s ». « Nati ». Et nous écrivons « ils sont nés » « s » « sou » « soups ». Nous écrivons « sou » « treuve ». Nous écrivons « trouve », etc. Troisièmement, il faut bien distinguer la prononciation d'avec l'orthographe. La prononciation est l'effet d'un certain concours naturel de circonstances. Quand une fois ce concours a produit son effet et que l'usage de la prononciation est établi, il n'y a aucun particulier qui soit en droit de s'y opposer, ni de faire des remontrances à l'usage. Mais l'orthographe est un pur effet de l'art. Tout art a sa fin et ses principes. Et nous sommes tous en droit de représenter qu'on ne suit pas les principes de l'art, qu'on n'en remplit pas la fin et qu'on ne prend point les moyens propres pour y arriver à cette fin. Il est évident que notre alphabet est défectueux en ce qui n'a pas d'autant de caractères que nous avons de sons dans notre prononciation. Ainsi, ce que nos pères firent autrefois quand ils voulurent établir l'art d'écrire, nous sommes en droit de le faire aujourd'hui pour perfectionner ce même art. Et nous pouvons inventer un alphabet qui rectifie tout ce que l'ancien a de défectueux. Pourquoi ne pourrait-on pas faire dans l'art d'écrire ce que l'on fait dans tous les autres arts? Fait-on la guerre, je ne dis pas comme on la faisait du temps d'Alexandre, mais comme on la faisait du même temps d'Henri IV. On a déjà changé dans les petites écoles la dénomination des lettres. On dit « be, fe, me, ne ». On a enfin introduit, quoique avec bien de la peine, la distinction de l'U consonne V, qu'on appelle V, et qu'on n'écrit plus comme on écrit l'U voyelle. Il en est de même du J, qui est bien différent de l'I. Ces distinctions sont très modernes, elles n'ont pas encore un siècle. Elles sont suivies généralement dans l'imprimerie. Il n'y a pas que quelques vieux écrivains qui n'ont pas la force de se défaire de leur ancien usage. Mais enfin, la distinction dont nous parlons était raisonnable, et elle a prévalu. Il en serait de même dans l'alphabet bien fait, s'il était proposé par des personnes à qui il convient de le proposer, et que l'autorité qui préside aux petites écoles ordonnât aux maîtres d'apprendre à leurs disciples à le lire. Je prie les personnes qui sont d'abord révoltées à de pareilles propositions de considérer. Premièrement, que nous avons actuellement plus de 4 alphabets différents, et que nos jeunes gens, à qui on a bien montré à lire, listent également les ouvrages écrits selon l'un ou l'autre de ces alphabets. Les alphabets, je veux dire, sont le romain, où l'art se fait ainsi, un A, l'italique A, l'alphabet de l'écriture que les maîtres appellent françoise, ronde ou financière, où on le fait ainsi, laisse ainsi, l'air ainsi, etc. Quatrièmement, l'alphabet de la lettre bâtarde. Cinquièmement, l'alphabet de la coulée. Je pourrais même ajouter l'alphabet gothique. Deuxièmement, la lecture de ce qui est écrit selon l'un de ces alphabets n'empêche pas qu'on ne lise ce qui est écrit selon un autre alphabet. Ainsi, quand nous aurions encore un nouvel alphabet et qu'on apprendrait à le lire à nos enfants, ils n'en liraient pas moins les autres livres. 3. Le nouvel alphabet dont je parle ne détruirait rien. Il ne faudrait pas pour cela brûler tous les livres, comme disent certaines personnes. Le caractère romain fait-il brûler les livres écrits en italique ou autrement? Ne lit-on plus les livres imprimés il y a 80 ou 100 ans, parce que l'orthographe d'aujourd'hui est différente de ces temps-là? Et si l'on remonte plus haut, on trouvera des différences bien plus grandes encore, et qui ne nous empêchent pas de lire les livres qui ont été imprimés selon l'orthographe alors en usage. Enfin, cet alphabet rendrait l'orthographe plus facile, la prononciation plus aisée à apprendre, et ferait cesser les plaintes de ceux qui trouvent tant de contrariétés entre notre prononciation et notre orthographe, qui présentent souvent aux yeux des signes différents de ceux qu'elles devraient présenter selon la première destination de ces signes. Mais on oppose que les réformateurs de l'orthographe n'ont jamais été suivis. Je réponds, premièrement, que cette réforme n'est pas l'ouvrage d'un particulier. Deuxièmement, que le grand nombre de ces réformateurs fait voir que notre orthographe a besoin de réforme. Troisièmement, que notre orthographe s'est bien reformée depuis quelques années. Quatrièmement, enfin, c'est un simple alphabet de plus que je voudrais qu'il fût fait autoriser par qui il convient, qu'on apprît à le lire, et qu'il y eût certains livres écrits suivant cet alphabet, ce qui n'empêcherait pas plus de lire les autres livres que le caractère italique n'empêche de lire le romain.